Décryptage. Clotilde Dumay.
Comme chaque année, il ouvre la saison des festivals de musique en France. Le Printemps de Bourges a lancé sa 48e édition cette semaine, avec de nombreux artistes attendus sur scène, Mika, Martin Solveig, Chaka Ponk ou encore Eddy de Préto, et des têtes d'affiche prévues dans d'autres festivals, en tout cas ceux qui ont survécu au calendrier imposé par les Jeux Olympiques cet été. 2024, encore une année compliquée pour les festivals après le Covid-19 et l'inflation. Alors où en sont-ils financièrement? Jusqu'à quel point seront-ils pénalisés par les JO? Faut-il repenser leur modèle économique? On en parle ce soir dans Décryptage. Et nous sommes en ligne avec Agathe Bélanguet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice générale adjointe de l'association Zone 51 qui organise le Summer Vibration Festival à Célestas, c'est dans l'Est de la France. Et puis bonsoir Mathieu Ducot.
Bonsoir.
Un directeur du festival Rancancène, c'est juste à côté de Paris. Et puis vous êtes aussi élu au sein du syndicat Écocène qui regroupe des entrepreneurs du spectacle vivant privé. Alors Rancancène va justement bien avoir lieu cette année, ce sera du 21 au 25 août prochain. Malgré quand même une incertitude qui a plané fin 2022, notamment lorsque le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a évoqué l'annulation ou le report de certains événements culturels estivaux à cause des Jeux Olympiques. Comment est-ce que vous avez finalement réussi, Mathieu Ducot, à tirer votre épingle du jeu ?
Ben, on a déjà été extrêmement troublés par ce discours, effectivement, à l'automne 2022. Mmh. Tout à fait. Et effectivement, on a essayé très rapidement d'en savoir un peu plus et de travailler avec la préfecture des Hauts-de-Seine. Le festival a lieu dans les Hauts-de-Seine, qui est notre structure d'État référente pour voir dans quelles conditions pouvait se tenir le festival, parce qu'on a été, évidemment, comme beaucoup, extrêmement inquiets de la situation.
Parce qu'en plus, ça tombe juste avant les Jeux paralympiques, donc vraiment dans la zone où c'était un peu très compliqué d'organiser un festival.
Oui, comme beaucoup de festivals qui ont lieu évidemment en été, on était dans une proximité temporelle assez forte avec les JO juste avant et les Jeux paralympiques juste après.
Alors à l'inverse, Agathe Bélanguet, vous, le Summer Vibration Festival malheureusement a été annulé cette année. D'habitude, c'est vrai que lui aussi, il est plutôt organisé fin juillet, donc là aussi en pleine période olympique. Est-ce que ce calendrier justement a pesé dans le choix d'annuler l'édition 2024 ?
Oui, tout à fait. C'était dès fin 2022, on s'est aussi, nous, posé beaucoup de questions puisqu'on tombait sur la troisième semaine de juillet, donc en plein pendant les épreuves. Et puis, on a été aussi alertés très rapidement avant notre édition 2023 par nos prestataires sur des possibles pénuries, que ce soit en termes de logistique ou de ressources humaines. Des équipes de sécurité, les équipes de secours. Donc nous, on s'est rapidement posé la question. Et puis on a assez, pour d'autres problèmes locaux, d'autres questions qu'on avait, on a trouvé que c'était le moment pour nous de prendre une pause, justement de repenser un peu les choses et de poser un peu, nous, nos problèmes qui nous sont propres.
On va revenir effectivement sur peut-être ces problèmes tout à l'heure. Mais Mathieu, est-ce que ce calendrier imposé par les Jeux Olympiques peut fragiliser peut-être un peu plus les plus petits festivals?
Oui, on sait que le calendrier de festival en France, il est extrêmement dense. Et effectivement, bouger de date, se déplacer dans le calendrier n'est pas forcément une évidence pour les événements. La problématique, effectivement, des ressources en matériel et en personnel sont évidentes. C'est-à-dire qu'une scène qui est installée dans un festival, elle parcourt toute la France ou en tout cas un certain nombre de festivals et d'événements dans l'été. C'est pas parce qu'elle est disponible et qu'on a un prestataire qui est en capacité de nous la louer un week-end, que le week-end suivant, elle n'est pas déjà occupée ou en tout cas préemptée par un autre événement. Donc tout ça est un jeu compliqué à faire bouger. Ces histoires de calendrier, notamment, sont un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère, bien au contraire.
Alors, Agathe Bélanguet, vous parliez effectivement d'autres problèmes en plus de cette problématique olympique. D'après une étude du syndicat des musiques actuelles, 43% des festivals ont présenté une édition 2023 déficitaire. Je crois que c'était le cas aussi pour votre festival. Depuis quand est-ce que vous avez des difficultés financières? Est-ce que, notamment, le Covid-19 vous a affaibli, et est-ce que aussi vous payez peut-être l'inflation?
Ah oui, bah, évidemment, comme tout le monde, effectivement, on paye l'inflation. Nous, on est vraiment un festival de moyenne taille, donc on est sur une jauge entre 25 000 et 30 000 personnes. Donc on est à la fois un festival professionnel avec des salariés, voilà, des réglementations et des demandes assez fortes de la préfecture sur les aspects de sécurité. Et à la fois, on reste une taille moyenne, donc avec pas le même poids que les très gros festivals. Et du coup, c'est un modèle qui est très fragile depuis toujours. Ça s'est vraiment renforcé. Ouais, mais ça s'est vraiment renforcé avec le Covid, effectivement, avec notamment les prix qui se sont envolés à tous les niveaux, sur toutes les lignes du budget. On fait vraiment face à une augmentation importante. Et puis les publics, c'est un secteur qui finalement est de plus en plus concurrentiel. Donc nous, on a vraiment besoin de faire complet pour pouvoir trouver l'équilibre. Donc c'est un système, c'est une économie qui est très très fragile et ça devient de plus en plus compliqué, effectivement.
Alors, pour aller dans le sens de ce que vous dites, effectivement, d'autres chiffres, cette fois-ci du Centre national de la musique, le CNM, qui constate une hausse effectivement de 21% entre 2019 et 2022, à la fois des charges techniques, logistiques et de sécurité, mais aussi des charges artistiques, ce qui comprend notamment les cachets des artistes. Est-ce que ce sont deux postes de dépenses qui ont particulièrement augmenté pour Rock en Seine, Mathieu Ducos, vous qui allez quand même accueillir cette année des têtes d'affiche comme Lana Del Rey?
Oui, mais je crois que la situation exposée par Agathe est valable en fait pour l'ensemble des festivals. Je crois que là, il n'y a pas de lieu de dissocier ou de faire de différence entre les petits, les moyens ou les gros. C'est logique d'inflation sur les sujets techniques, mais les sujets artistiques, je crois, sont vraiment communs à tous. Donc c'est effectivement un sujet qu'on a du mal auquel on a du mal à faire face, parce qu'effectivement l'augmentation des billets, des prix des billets, est un chemin qu'on a globalement tous à peu près pris, mais dans des proportions qui ne viennent pas, on va dire, contrebalancer ces augmentations de coûts importantes. Effectivement, la question de l'augmentation des coûts artistiques est importante, très prégnante. On a besoin de têtes d'affiches, on a besoin d'artistes, comme le disait aussi Agathe, pour remplir, parce que les niveaux, effectivement, de rentabilité de nos événements sont extrêmement, extrêmement hauts, et qu'on a besoin vraiment de faire le plein tous les jours pour réussir à équilibrer les finances de l'édition.
Et pourquoi les artistes augmentent leur cachet, justement? Ils savent que voilà, les festivals sont un peu en difficulté. Est-ce qu'on pourrait attendre un geste de leur part ou est-ce que vous comprenez?
Alors, on pourrait toujours attendre un geste de leur part. Effectivement, la période notamment du Covid a à un moment laissé croire que, on va dire, les intérêts des différents acteurs de la filière pouvaient un petit peu s'effacer au profit d'une vision un peu plus collective. Malheureusement, effectivement, il n'en est pas ressorti grand-chose au final à la suite de la crise. Et aujourd'hui, on a effectivement un bête et méchant système d'offres et de demandes qui, effectivement, met les artistes en position de force d'une certaine manière vis-à-vis des événements qui sont nombreux, qui cherchent évidemment toujours les artistes les plus populaires, les plus attractifs, et là effectivement les cachets augmentent, l'inflation sur ces postes de dépenses est particulièrement importante.
Alors on a l'impression, effectivement, vous le disiez, que côté billetterie, vous êtes déjà un petit peu au maximum de ce que vous pouvez faire. Agathe Bélanguet, sur quoi vous pourriez compter pour trouver des financements? Est-ce qu'il faut davantage se tourner vers l'État et les collectivités territoriales, davantage vers les sponsors privés? Quelle serait la solution selon vous?
On la cherche, cette solution. La solution, effectivement, nous, ce qu'on attendrait, en tout cas des pouvoirs publics, c'est d'avoir une réelle politique festival au niveau national. Donc, effectivement, qu'on puisse un peu revoir peut-être la répartition des aides qui sont allouées au secteur culturel dans son ensemble. On estime que les festivals ne sont pas toujours les plus aidés. Ce serait en tout cas un axe intéressant pour nous. Les partenaires privés, ça c'est pareil, c'est difficile pour nous d'activer ce réseau-là. Là de nouveau, en étant un festival moyen, les partenaires privés sont aussi sollicités sur plein d'autres pans, que ce soit le sport ou de la culture, donc ils ont aussi beaucoup de demandes. Et puis comme le disait Mathieu, effectivement, le prix des billets, les portefeuilles ne sont pas extensibles, c'est un secteur énormément concurrentiel. Donc c'est difficile aussi pour nous d'appuyer sur ce billet-là, en tout cas.
Mathieu Ducot, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous misez, par exemple, sur les sponsors privés ? Est-ce que vous pensez aussi, peut-être, que pour certains cas, les collectivités territoriales devraient davantage participer au financement des festivals, notamment parce qu'on le sait qu'elles bénéficient de retombées économiques au moment d'un événement ?
Oui, alors évidemment, on peut toujours espérer des augmentations en termes de subventions des collectivités locales, notamment, qui financent déjà en grande partie les festivals. Mais bon, je pense que c'est illusoire de penser que c'est une solution pour l'avenir. Les sponsors et la sphère privée en général peut être une solution, mais effectivement, on se heurte aussi à des réalités qui sont difficiles du tissu économique local, notamment pour beaucoup d'événements. Mais il y a aussi, pour revenir sur les JO, une situation effectivement un tout petit peu à moyen terme, au-delà de la question des aspects de sécurité ou d'accord pour organiser les festivals. On va avoir cette année, sur l'ensemble du secteur de la musique actuelle, une baisse d'activité qui va être très grande, notamment liée à l'indisponibilité des grands stades, des grandes arénas, qui va de fait engendrer une baisse de recettes fiscales, de recettes de taxes, et ça va d'une certaine manière assécher et diminuer aussi beaucoup potentiellement les aides. On parlait du Centre national de la musique, notamment des aides à venir pour le secteur, et ça peut être effectivement un risque, on va dire, en deux temps pour les festivals.
Est-ce qu'on a aussi toujours autant envie d'aller dans des festivals ? Je pense notamment peut-être aux générations les plus jeunes qui ont peut-être un rapport différent aux concerts en live, qui sont davantage tournés vers leur smartphone. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi réinventer la façon de proposer un festival, Mathieu Ducot ?
Effectivement, faire venir les plus jeunes générations dans nos événements est un enjeu pour nous, puisqu'on sait que c'est le public de demain. Il y a sûrement une cassure un peu plus nette, ou en tout cas un peu plus de difficultés parfois à les convaincre aujourd'hui. Je crois que encore une fois, la crise Covid, on va pas tout mettre sur le dos de cette crise, mais il y a aussi posé un certain nombre de sujets de sociabilisation des jeunes générations. Parfois un ressenti différent de ce que peuvent être les sorties et puis notamment les concerts, la musique live.
Ça peut être quoi les pistes, justement, du coup ?
Les pistes, c'est de donner envie, c'est d'essayer aussi artistiquement d'aller chercher ce que beaucoup font, les grands artistes, on va dire, totems pour ces générations, et puis faire venir les gens, parce que je pense que l'expérience et les jeunes qui viennent, qui font le pas, sont assez vite séduits par ce que sont les festivals et ce que sont encore les festivals. Il y a peut-être des aspects, des nouvelles manières de les toucher, évidemment, trouver d'autres moyens de communiquer avec ces communautés. Mais je crois qu'on peut pas, en tout cas, moi, je ne me vois pas transformer ce qui est aujourd'hui un festival, qui est quand même un grand moment de communion ensemble autour d'artistes populaires, rassembleurs. Et ça, il faut réussir à montrer que c'est une expérience folle et réjouissante.
Alors, un autre poste de dépense qui a aussi pas mal augmenté pour les festivals, c'est le prix des assurances, à cause notamment des aléas climatiques qui sont de plus en plus fréquents et qui peuvent forcément entraîner des changements de programmation. Est-ce que l'un ou l'autre, vous êtes un petit peu concerné par ça, par cette hausse du prix des assurances et par cette problématique liée aux aléas climatiques ? Mathieu,
Agathe, vous voulez répondre?
Bon, vas-y, Mathieu.
Alors, oui, bien sûr, on est tous confrontés, hein, on est des événements de plein air, donc évidemment extrêmement à risque en ce qui concerne les aléas climatiques. Nous, on a eu évidemment, enfin, on a eu la chance, hein, de pas connaître d'épisodes compliqués et difficiles, mais on a plein de d'événements amis, confrères qui ont subi effectivement des annulations et des épisodes assez terribles de météorologiques et qui ont contraint encore une fois à des conséquences fortes de cessation d'activité, de problématiques évidemment financières par la suite, et la conséquence sur les primes d'assurance est évidemment extrêmement claire. On parlait de 20% sur les artistes, on n'en est pas très loin sur les assurances.
Mmh. Agathe Bélanguet, vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet ?
Oui, effectivement, les primes ont bien augmenté. Il y a des assureurs qui se désengagent de ce type de risque aussi. Donc c'est aussi effectivement un sujet sur lequel il faut être vigilant, quoi.
Est-ce que justement la préoccupation, le fait peut-être aussi de faire des festivals moins polluants, qui sont peut-être plus en accord avec le changement climatique, etc. Du coup, est-ce que ce sont des choses aussi qui forcément vous traversent l'esprit, qui sont liées indirectement ? Agathe ou Mathieu?
Oui. Bon, ça, c'est une problématique, en tout cas, je pense que dans la majorité des festivals, qui est pris en compte depuis de très, très nombreuses années. Alors après, c'est vrai que quand on reçoit 25, 30 000 personnes pour nous et beaucoup plus pour Mathieu, il y a forcément un impact, mais c'est quelque chose sur lequel, en tout cas, les efforts ont été faits depuis. On est un peu précurseur, je pense, sur ces questions-là. Donc je pense qu'on limite ça comme on peut et assez bien.
Pour conclure, quand même, aujourd'hui, 90% des festivals qui adhèrent au syndicat des musiques actuelles disent qu'ils voient l'avenir assez complexe, voire très difficile. C'est quand même un chiffre assez éloquent. Dans quel état d'esprit vous êtes-vous, Agathe Bélanguet? Est-ce que déjà il y aura une édition 2025 du Summer Vibration Festival? Et voilà, comment vous envisagez un petit peu la suite?
Alors nous, on est encore en état des lieux, on est encore en train de travailler sur les problématiques qui nous sont propres. Après, on est optimiste, on aime ce qu'on fait, donc on a envie de continuer. On reste par contre réaliste un peu sur les difficultés, sur tous les sujets qu'on vient d'aborder. Et ça fait 25 ans qu'on travaille sur ce milieu. On est prêt à s'adapter. On n'a pas nécessairement envie d'aller vers du plus grand pour obtenir un équilibre compliqué, mais on est prêt à s'adapter. On adaptera le festival s'il faut. On n'a pas peur de ça. On continuera en adaptant les choses.
Mathieu Ducot, est-ce que vous êtes aussi optimiste ou en tout cas
voilà. Oui, je suis optimiste. Je suis content d'entendre qu'Agathe, qui effectivement vit, j'imagine, des temps compliqués en ce moment, reste optimiste. Je crois que les organisateurs de festivals ont fait preuve année après année de beaucoup de capacité d'adaptation. Donc, je crois que c'est une de nos forces et elle doit effectivement rester une force pour un avenir qui est plein d'incertitudes, plein de challenges, mais qu'on va essayer de relever individuellement, mais aussi collectivement, de la meilleure des manières possibles. En tout cas, nous, on est dans cet état d'esprit positif. On a fait aussi de cette concomitance géographique et temporelle avec les JO une force en proposant un festival cette année qui va justement être empreint des valeurs des Jeux Olympiques, avec un programme un petit peu dédié et labellisé Olympiade culturelle. Donc ça, par exemple, pour nous, c'était l'occasion de se dire qu'une fois l'édition 2024 assurée, avec ces 6 sujets de sécurité dont on a parlé, de voir comment on arrivait justement à faire de ce contexte plutôt une opportunité qu'une source d'ennui uniquement.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Mathieu Ducot, directeur du festival Rock en Seine, élu au sein du syndicat Écoscène. Merci beaucoup d'avoir participé ce soir. Et puis merci aussi à vous, Agathe Bélanguet. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe de l'association Zone 51 qui organise le Summer Vibration Festival à Célestat. Valentin Vaner était à la réalisation ce soir. Merci également à Arnold Assewa et au service documentation de RFI pour la préparation de cette émission. Décryptage que vous pouvez retrouver en podcast sur le site internet et l'application de RFI.